Alors que le Canadien a réussi à survivre à l'élimination hier face aux Flyers de Philadelphie, bien il y a des équipes qui sont contraintes de quitter la bulle, qui ont été éliminées ces dernières heures, ces derniers jours. C'est le cas des Blackhawks de Chicago qui se sont inclinés contre une fichue de bonne formation, les Golden Knights de Vegas. On a le plaisir d'avoir au bout du fil l'entraîneur des gardiens de but des Blackhawks, nul autre que Jimmy Wade. Salut Jimmy.
Salut Mario.
Déjà sur la route du retour vers le Québec, vers l'Estrie, dès aujourd'hui?
Oui, on n'a pas perdu de temps. Ils veulent, lorsqu'une équipe est éliminée, ils veulent qu'ils sortent de la bulle le plus vite possible. Donc, on avait la partie de 8h30 du soir, nous à Edmonton, et puis on a perdu. Donc, tout le lendemain, à 10h, on partait de l'hôtel pour prendre un vol pour Chicago.
Donc, t'es quand même retourné un détour par Chicago avant de revenir au Canada. Ça n'a pas été trop compliqué, même si on vit encore avec toutes les contraintes de la COVID?
Non, ça a bien été. On avait le choix de pouvoir partir directement d'Edmonton, mais moi, je retourne à la maison à Chicago à aller chercher des choses et puis une voiture. Donc, et puis ça se fait quand même assez bien. Là, la route, c'est à peu près 13-14 heures de route à Chicago, Sherbrooke. Donc, ça se fait bien. Donc, là, il me reste à peu près 5 heures de route à faire.
Il n'y a pas de victoire morale en série. Je sais que les gars n'aiment pas nécessairement entendre parler de ça, mais compte tenu que vous avez tellement de jeunes joueurs avec les Hawks, de s'incliner contre les Golden Knights après une bonne lutte, Jimmy, comment vous avez accueilli le résultat final?
Ouais, c'est sûr qu'on croyait pouvoir être capable de battre. On savait que c'était une grosse tâche de battre les Knights, comme tu viens de mentionner. C'est vraiment une équipe, une très bonne équipe, une équipe qui a beaucoup de profondeur aussi. Mais on avait quand même confiance de pouvoir rivaliser avec eux. Et puis, pendant toute la série, vraiment, sur les 5 matchs, il y a eu une partie qu'on n'aurait pas dû, qui ont vraiment mieux joué que nous. Puis c'est la partie qu'on a gagnée, assez bizarrement. Donc, c'est parce que Crawford avait été exceptionnel cette partie-là. Il en a volé une pour nous.
Vraiment.
Mais tous les matchs, on était dans le coup.
C'est difficile à prévoir le hockey, Jimmy. C'est même difficile à évaluer. Est-ce que c'est déroutant pour les entraîneurs d'un match à l'autre?
Bien, c'est sûr que d'un match à l'autre, tu essaies de trouver des solutions à tout, surtout dans les séries. Il y a beaucoup de meetings et puis, comme je viens de dire, tu essaies de changer des trios d'un fois, changer d'un fois sortir un joueur de l'alignement, remplacer par un autre. Tu essaies un peu de faire tout ce que tu peux pour essayer d'avoir un avantage, mais ça n'a pas marché dans les côtés pour cette série-là.
Vous autres, au sein de l'organisation des Hawks, est-ce que vous posiez des questions ou est-ce que vous sentiez qu'il y avait des gars qui n'avaient pas tellement envie de vivre le tournoi dans la bulle ou c'est pas quelque chose que vous avez ressenti dans votre groupe?
Non, au contraire, on était même surpris de l'attitude des joueurs. Et, tu voyais tous les joueurs étaient là pour gagner. Et puis dans tous les matchs, on regardait. Tu vois que lorsqu'un joueur compte un but, ils sont vraiment excités. Puis je pense que les joueurs sont là pour les bonnes raisons. Ils veulent gagner. Ils prennent ça comme si c'est les séries de la Coupe Stanley. Et puis au bout de la ligne, c'est la coupe qu'on veut. Tu sais. Donc non, les joueurs sont vraiment là pour les bonnes raisons. Puis ils travaillent fort. Puis j'ai été agréablement surpris de voir les joueurs compétitionner comme qu'ils l'ont fait. Là.
Bien, moi, je peux te dire qu'en regardant comme téléspectateur, ce que tu décris, là, moi aussi, à l'écran, j'ai ce sentiment-là, vraiment. Là,
ouais.
Tu sais, les premiers matchs, peut-être c'était un peu bizarre, là, mais là, je regarde plus dans les estrades, je vois l'intensité sur la glace, puis je vois des gars qui veulent gagner. C'est quoi la plus grosse différence pour vous, autant les entraîneurs que les joueurs, de jouer dans un cadre comme celui-là, en l'absence de spectateurs? Ça amenait-tu des gros changements? Au niveau de la motivation, tu sentais-tu que le speed du coach doit être plus intense pour aller chercher la petite émotion qui parfois te fait faire une enjambée de plus, là?
Oui. Mais au début, les premiers matchs, on avait peur de ça un peu, de l'émotion des joueurs, qu'il n'y ait pas personne dans les obstacles, comme tu le dis. C'était un peu bizarre, mais on s'est comme adapté à ça, les joueurs aussi. Et puis, c'était plus que ça allait, plus que les joueurs embarquaient, puis qui... comme on parlait avant, les gars, il y avait beaucoup d'émotions. Puis tu le vois, quand un joueur compte un but, il y a vraiment beaucoup d'émotions dans l'équipe. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
Vous autres, avez-vous ça comme un bonus d'avoir l'occasion de participer à ce tournoi-là éliminatoire, Jimmy, puis même de jouer une autre ronde puisque vous avez gagné la qualification?
Oui, c'était vraiment un bonus. Puis c'est ça qu'on a essayé de vendre aux joueurs. C'est, hey, on a une chance, on n'était pas supposé d'être dans les séries. Puis on a eu une chance. Et puis, on a gagné notre place en battant Edmonton dans le 3-5. Je pense qu'on l'a pas volé. C'est sûr que c'est un autre contexte. Au plus, on n'aurait pas été là, comme je viens de mentionner, mais on a gagné notre place dans le 3-5. Puis ça, c'est un gros bonus pour nous d'avoir pu gagner cette série-là. Et puis, qu'est-ce qu'il faut penser aussi là-dedans, Mario? C'est l'expérience que les jeunes prennent dans les séries. Tu as mentionné qu'on avait une jeune équipe, et c'est vrai, on a beaucoup de bons jeunes joueurs. Puis d'avoir quand même joué deux séries éliminatoires comme ça, ça sera très bon pour eux pour l'avenir.
Vos vétérans, là, les gars qui ont gagné, qui ont des bagues là, plein les doigts, là, les Kane, les Taze, les Keith, Corey Crawford également. Comment les gars vivent-ils ça, cette transition-là, d'accueillir plein de jeunes dans l'équipe, de savoir que t'es peut-être un peu moins redoutable? Est-ce qu'ils croient que les jeunes vont se développer assez vite pour avoir la chance de revivre avec eux une conquête?
Je pense que oui. C'est sûr qu'on a une couple de joueurs qui sont un peu plus vieux, comme Duncan Keith, lui est rendu à 38 ans, je crois. Corey Crawford, il est rendu à 35 ans. Donc, pour eux, ça presse un peu plus, mais Taze, Kane sont dans la jeune trentaine et puis il y a encore un peu de temps. Et puis, ça peut changer assez rapidement. On pense que nos jeunes vont se développer rapidement et puis en espérant que l'an prochain ou d'ici 2 ans maximum, on peut être très compétitif.
Est-ce que les gars dans la bulle, pour vous, les Hawks, sentiez-vous une connexion quand même avec ce qu'on appelle votre fanbase, là, vos partisans à la maison ou peu importe où ils sont à travers le monde, là, de façon virtuelle? Je ne sais pas si les gars de communication des Hawks vous amenaient des vidéos, des emails pour faire sentir aux gars que même s'ils les voient pas, les fans, qu'ils étaient là derrière leur équipe?
Non, pas à l'intérieur de l'équipe, non, mais je suis certain que les joueurs vont sur les réseaux sociaux. Moi, je sais que j'ai vu sur Instagram que nos fans ils allaient dans un drive-in, un ciné-parc pour regarder les parties à Chicago, puis c'était bien plein. C'est sûr, avec la distanciation, là, évidemment, mais on sent que en suivant les médias sociaux que les fans étaient là derrière. Et puis, moi, je sais que de mon côté, j'ai plusieurs amis qui me textent de Chicago qui regardent les matchs puis sont très excités d'avoir les Blackhawks de retour dans les séries.
Parle-moi de ton gardien, du vétéran Corey Crawford, qui vient de compléter une dernière année de contrat avec les Hawks, 35 ans. Je ne sais pas si la poignée de main d'après élimination, est-ce que ça avait une saveur particulière? Vous êtes dit que vous allez vous reparler bientôt sans savoir ce que l'avenir lui réserve?
Non, moi je suis quand même assez confiant qu'on va essayer de garder Corey. Mais il y a toujours le contexte du plafond salarial, surtout que cette année... Il va pas augmenter à cause des revenus. Donc, ça, il y a beaucoup de points d'interrogation sur qu'est-ce qui va se passer cet été à cause de ça. Donc, mais j'espère profondément qu'on va revoir Corey Crawford avec les Blackhawks. C'est encore, je vous dirais, encore un bon 2-3 ans là, facile de bon hockey dans lui. Puis j'espère de tout mon cœur qu'il va revenir avec les Blackhawks. Je suis un gros fan de lui. Je l'adore. C'est une bonne personne et puis un très bon gardien de but.
C'est quoi le défi rendu à mi-trentaine pour un gardien de but pour rester au top de sa game? Puis d'ailleurs, j'ai regardé à peu près 85% là, des matchs de votre série puis de la ronde préliminaire, puis j'ai trouvé que Corey était vraiment bon. Mais le défi pour les années à venir pour un gars de son âge, puis par la bande, on peut penser à n'importe quel gardien qui est dans ces âges-là, là, c'est quoi?
Ben moi, je te dirais, c'est évidemment garder la forme. C'est souvent l'info, on parle beaucoup de réflexes pour le gardien de but, mais je pense que tu peux compenser beaucoup avec ton expérience. Et puis, Corey a vraiment une game assez simple. C'est vraiment, là, lui, c'est pas un gardien de but qui va faire des arrêts acrobatiques tout le temps. Il est toujours bien positionné. Il sait très bien lire le jeu, quand rester plus profond dans son but, quand pouvoir challenger, les lancer un peu plus. Donc, ça, il est très bon là-dedans. Puis, à cause de ça, je crois qu'il va pouvoir jouer, comme je dis, il y a 35 ans, je pense, encore 2-3 bonnes années devant lui. Et puis, c'est un gars qui le garde très, très en forme, en autant qu'il peut rester à l'écart des blessures. On sait qu'il y a eu quelques problèmes avec ça des dernières années, mais je vais toucher du bois. Cette année, il était correct, je n'avais pas de blessure. Donc, c'est bon pour l'avenir.
Quelle est l'équipe la plus redoutable, selon toi, dans l'Ouest, toi qui as observé, j'imagine, pas mal d'hockey là-bas là, depuis que tu es arrivé à Edmonton, Jimmy? Quelle équipe doit être considérée, selon toi, comme favorite?
Ben moi, j'aime beaucoup les Vegas. J'ai mentionné plus tôt qu'il y avait une équipe très profonde et puis une bonne défensive, quatre bons trios. Ils vont être très dans deux bons gardiens, évidemment aussi. Donc, ils sont à surveiller, mais il ne faut pas passer à côté de Colorado. On a vu, ils ont une attaque explosive. Et puis, contre Arizona, ils n'auraient pas été Darcy Kuemper. Je pense qu'il aurait pu être 8-1, 8-0 à toutes les parties. Donc, ils vont être à surveiller également.
Ah oui, j'adore Colorado. As-tu le droit d'avoir une équipe favorite quand ton club est éliminé, quand tu travailles pour une équipe de la Ligue, Jimmy?
Favorite, non. Honnêtement, j'en ai pas. J'ai un petit penchant pour Montréal, évidemment. Ils sont encore dans les séries à cause de mon frère. Puis c'est aussi mon équipe d'enfance. Donc, Montréal, j'ai un faible pour eux, c'est sûr.
Fait que t'as donc dû regarder ça hier du coin de l'œil dans ton domicile de Chicago avant de reprendre la route tôt ce matin?
Oui, à travers un peu deux, trois valises. Ça fallait se dépacter, Donc, à travers deux, trois valises, j'ai regardé un peu le match. Là, je l'ai pas tout regardé, c'est au lit à faire de bonne heure. Mais j'ai vu les deux, trois premières et puis Carey Price, il est en forme. Donc, si lui va bien, mais les Canadiens ont une très bonne chance. Donc, c'est sûr qu'à 3-1, c'est pas facile de revenir de ça, mais une grosse victoire hier et puis on sait jamais.
As-tu déjà vécu ça, Jimmy, la situation que Carter Hart a vécu hier devant le filet des Flyers de Philadelphie, c'est-à-dire que il y a un but qui rentre, le gardien, le coach Charles le crochet en voulant changer de gardien de but, finalement reprise vidéo, la bleue, on voit qu'il y a un hors-jeu, Jonathan Drouin s'était compromis, finalement le coach il dit « Es-tu correct? » retourne dans le filet. As-tu déjà vécu quelque chose de semblable à ça dans ta carrière?
Ben moi, j'ai commencé ma carrière avec Mike Keenan.
Oh boy!
Ça fait 4 ans. Mes premières années, c'était avec lui. Puis, on l'appelait Captain Hook, c'est pas pour rien. lui, à un moment donné, Darren Tang avait commencé une partie à Pittsburgh. Et puis, je l'avais remplacé à 1:30. J'avais deux buts qui étaient absolument pas de sa faute. Puis, j'avais embarqué à peu près 2 minutes dans la partie, en commençant la partie. Donc, avec lui, il fallait toujours que tu sois prêt. Il pouvait te retirer, et puis une fois retiré, il pouvait te remettre dans le but quelques minutes plus tard. Donc, tu savais jamais à quoi t'attendre avec lui, mais c'est un peu ça qui est arrivé hier, je peux voir.
Est-ce que c'est difficile pour un gardien de vivre ça, de sentir que le coach a un doute et qu'il est prêt à te retirer, ou faut être assez fort pour vivre avec ça?
Oui, c'est pas facile pour un gardien de but. Mais c'était ça qui est nul. Il essaie tout le temps de jouer dans ta tête un peu. Il essaie de voir le meilleur de toi. Mais je te dirais, pour un gardien de but, c'est pas la meilleure façon. C'est un peu la vieille école, je te dirais. Hitchcock, dernièrement, c'est un gars qui faisait ça encore. Ken Hitchcock faisait ça avec ses gardiens à Saint-Louis. Mais c'est des gars de la vieille école. Et puis maintenant, ben, on s'assure qu'une fois que tu retires ton gardien de but, tu l'as retiré pour de bon. Puis, moi, j'aime ça être un peu plus patient aussi pour laisser la chance au gardien de but de travailler à travers un mauvais départ. Et puis souvent, ça peut revenir. Mais moi, c'est ma façon de voir les choses.
Je pense qu'il y a bien des entraîneurs-chefs qui ont des réflexes. Évidemment, ils font réagir la plupart de leurs joueurs avec certaines méthodes. Puis des fois, ben ils veulent agir comme avec tous les joueurs, avec un gardien de but. Puis il y en a plusieurs qui pensent qu'on peut pas traiter un gardien de but de la même façon que le reste des joueurs.
Un gardien de but, c'est très psychologique, là. La confiance, là, est très importante. Je peux t'imaginer que si tu donnes un but ou deux buts rapidement, mais l'autre lancé d'après, mais c'est sûr que ça te joue dans la tête. On dit tout le temps, un gardien de but, faut être la mémoire courte, oublier qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas aussi évident, de le faire. C'est plus facile de le dire que de le faire.
Ouais, c'est sûr. Puis un dernier aspect avec toi, Jimmy. Un gardien qui se fait bousculer, là. Jusqu'à quel point ça peut le déranger? Comme Chiara t'a fait d'ailleurs assez tôt dans le match hier contre Carter Hart, là, en entrant dans l'enclave. Mais comme les Flyers ont fait très souvent vers Carey Price depuis le début de la série, on l'avait vu moins souvent l'autre bord, mais peu importe l'équipe ou qui est impliqué, un gardien qui, quand tu rentres dans son territoire, dans sa cage, puis tu le brasses un peu, ça peut-tu causer un petit peu de dommage?
Je pense pas. Vraiment, moi, pendant toute ma carrière, j'ai jamais pensé à un gars qui pourrait commencer à essayer de venir... t'as rentré dedans pour te faire exprès, mais c'est sûr que si ça arrive deux, trois fois dans la partie, tu y penses un peu, tu essaies de te protéger un peu plus que quand tu vois. C'est souvent un joueur ou deux, là, c'est souvent le même joueur aussi, là, fait que lui, tu tu regardes un peu de plus proche, mais en général, tu penses pas à ça.
En conversation avec Jimmy White, entraîneur des gardiens de but des Blackhawks de Chicago. Alors là, les Hawks, vous êtes en vacances. Quelles sont les consignes pour la suite des choses pour vous autres, Jimmy? Là, tout le monde s'en va dans son coin de pays sur la planète. Savez-vous, avez-vous une idée d'une date à laquelle vous allez être rappelé pour retourner pour un autre camp d'entraînement?
Oh, non, on n'a vraiment pas aucune idée. Je sais que la Ligue nationale, ils nous ont parlé de commencer le mois de décembre, mais est-ce que ça va être possible avec, on pense qu'il va y avoir une deuxième vague de COVID, fait que j'ai de la misère à croire qu'on va pouvoir avoir des spectateurs en décembre dans les arénas de la Ligue nationale. Donc, on va voir, mais jusqu'en ce moment, on n'a aucune idée, pas plus que vous, non.
Ben Jimmy, sur ça, je te remercie beaucoup de nous avoir jasé. Bravo quand même pour les performances qui vous ont permis de jouer au hockey plus longtemps que bien d'autres équipes. Bonne fin d'été au Québec également. Il fait tellement beau. J'espère que tu vas le temps d'en profiter.
Merci beaucoup, Mario.
Merci, Jimmy. Au plaisir.
OK, à la prochaine.
Bye.